Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
C'est aujourd'hui un document plus qu'une histoire, un témoin plus qu'un personnage, une figure, disons, en l'occurrence du grand banditisme marseillais. Il est probablement un des derniers survivants d'un réseau de drogue marseillais et corse bien connu, organisé entre la France et les États-Unis dans les années 70, qu'on appelle, vous le savez, la French Connection. C'est une époque où l'héroïne marseillaise, réputée pour sa bonne qualité, fait des ravages et des milliers de morts par overdose dans toute l'Amérique et surtout à New York. La vague n'épargne aucun milieu social. On dit même que l'héroïne, en provenance de France, fait plus de victimes que la guerre du Vietnam, qui dure depuis déjà quelques années et semble s'éterniser. Un documentaire diffusé sur France 3 en 2014 est signé David Korn Broza, cite Édouard Rimbaud, alias Doudou, une figure centrale de ce trafic transatlantique, qui explique, je cite, « Ne pensons pas aux gens qui meurent, pensons aux sous que ça rapporte. » Vous avez là toute la philosophie du milieu dans une phrase. Le gouvernement américain et son président nouvellement élu Richard Nixon font tout pour stopper l'arrivée massive d'héroïne, mais en vain. Rien ne semble arrêter les laboratoires de tourner à plein dans la région de Marseille, ni les trafiquants de trafiquer en toute impunité. De Gaulle puis Pompidou ne prennent pas de mesures suffisantes. Un ministre de l'Intérieur aurait même dit à ses homologues américains « C'est votre problème, pas le nôtre, puisque ce sont les Américains qui consomment ». Le réseau mettra plus de 20 ans à être démantelé entièrement. L'homme que l'on entend aujourd'hui n'a rien d'un héros, mais il se trouve au cœur du réseau pendant une bonne partie de sa vie, sans grand remords ni envergure. Il habite une petite maison dans les quartiers nord de Marseille. Elle est toute simple. Dans son salon trône une maquette de bateau en bois qu'il a faite de ses mains et dont il est fier. Il raconte pour la première fois son histoire et a donné à Pascal Pascariello, qui signe ce reportage, son carnet personnel, son journal intime de dizaines d'années de trafic de drogue à l'ancienne, comme on l'entend jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre, sans nostalgie, sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je travaille et j'enquête depuis 8 ans sur les réseaux de drogue à Marseille. Et il y a une phrase que j'entends souvent qui revient. Les vieux, ceux de la French, ils avaient un code de l'honneur. Cette remarque m'a toujours intriguée. La French, c'est quoi ? La French, c'est la French Connection, le nom que des policiers américains ont donné à l'organisation criminelle à la tête du trafic d'héroïne entre Marseille et les États-Unis dans les années 50 jusque dans les années 80. Je me suis toujours demandé pourquoi y aurait-il eu plus d'honneur dans ce trafic à cette époque-là qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette idée qu'il y aurait des trafiquants de drogue plus loyaux que d'autres ? Pour le savoir, je me suis donc mise en quête d'un ancien de la French Connection. Un de mes contacts m'a fait rencontrer à Marseille l'un des derniers survivants de cette période et pas des moindres. Un ancien marin, spécialiste du transport de l'héroïne.
Je m'appelle Jacques Lemazia. Je suis né en Italie, en Sardaigne, en 1924, 9 juillet. Et on est venu à Marseille parce que mon père avait un contrat de travail. Et on a habité là.
Voilà pour les présentations. Lorsque je suis rentré dans sa petite maison, dans le nord de Marseille, Jacques était occupé.
Je fais le bateau.
Les maquettes de bateau.
Dans maintenant, je vais reprendre un peu, j'ai encore deux ou trois voies à la mettre, pas plus. Dans 3-4 jours, je l'ai fini.
Le bateau qui est sur la terrasse ?
Ouais. Et là, je vais monter à Milan, et je vais prendre les pièces qu'il faut, et je vois mes amis aussi, que j'ai fait évader, là. Et je reste une semaine chez eux, chez lui. Lui aussi, sa femme, elle est morte peu cher, même tant qu'à la mienne.
À 93 ans, c'est ainsi que Jacques passe ses journées. Quand il était en prison, il a écrit ses mémoires. Il m'a donné ce cahier couvert d'une fine écriture très régulière, à l'ancienne elle aussi. En voici un extrait. Mon père a quitté l'Italie quelques mois après ma naissance. Nous étions 8 enfants. J'ai grandi à Marseille, nous habitions une petite maison, plutôt un cabanon, sans électricité, sans cabinet de toilette et sans eau aussi.
Et j'ai quitté l'école à 12 ans. Alors tout ce que je me souviens, à partir de 12 ans, mon père, comme je ne voulais plus aller à l'école, mon père il m'avait fait une charrette. Et il dit, tu ne veux pas aller à l'école ? Eh bien, tu vas chercher le charbon et le bois sur les quais pour ravitailler la maison, quoi. Bon. Et quand on pouvait prendre des bananes, des oranges, tout, on les ramassait, on remontait tout à la maison. Ici, on faisait, je servais tout à l'heure, les amis, les vieux pêcheurs aussi. On leur donnait. Bon, ça passait des années comme ça. Mais ce qui me pesait le plus, c'était les bateaux quand ils arrivaient. Les grands bateaux, les grands bateaux, les gros, pas. Et je m'amusais d'aller voir. Et je donnais même à la main à mettre les amarres sur le quai, vous voyez, sur les bites. Et quand le bateau accostait, je montais à bord du bateau. Et ça m'a pesé.
Fasciné par les bateaux, Jacques s'engage très tôt dans la marine. À 16 ans, il reçoit sa première paye de mousse, 300 francs à l'époque. Il aspire à sortir de la pauvreté qu'il a connue durant son enfance. Alors tout naturellement, il trouve de quoi arrondir ses fins de mois en dérobant certaines marchandises et en les revendant dans les ports.
Ouais, comme tous les marins, il faut dire. Parce qu'il n'y en a pas un de marin qui ne trafique pas. Hein. Alors celui qui ne trafique pas, c'est qu'il est fou. Il fallait manger. Vous touchez 300 francs par mois, à l'époque. Et comment il fallait faire? Si vous avez affaire à des marins comme moi, des matelots, ceux-là, ils ont besoin d'argent, alors. Ils vont pas voler, mais il faut qu'ils trafiquent.
Jacques est vite repéré par ceux que l'on nomme les pères tranquilles. Ce sont de vieux marins, certains à la retraite, qui, avec les années, ont des contacts dans chaque port et qui se sont spécialisés dans un trafic particulier, celui de l'opium.
J'ai travaillé peut-être, disons, allez, 2 ans, 1 an et demi, pour les pères tranquilles, disons, les retraités de la marine. Et au bout de 2 ans, ils ont vu que j'étais capable, que j'avais plus besoin d'eux, et m'ont dit, tu continues tout seul. Et j'ai continué. Mais quand j'avais besoin de quelque chose, par exemple, il fallait payer 2 ou 3 millions que je ne pouvais pas les donner, c'est eux qui le faisaient, pour acheter la marchandise. L'opium, on l'achetait pour le vendre. Si je l'achète, il fallait le vendre. Pour acheter, il faut les sous. On ne me faisait pas cadeau. Voilà. Et là, j'avais confiance. Du moment que je suis honnête, que je paye, comme prêtre et que je rends, et j'ai confiance. Et on était de parole, tous.
À partir de 1955, l'opium est transformé en morphine base, ce qui facilite son transport. Jacques récupère alors cette morphine au Liban ou en Turquie et organise son transport jusqu'à Marseille. Là, elle est transformée en héroïne et réexpédiée vers les États-Unis où elle est vendue. C'est ainsi que Jacques rentre dans le cercle fermé de la French Connection.
La French Connection, c'est pas moi qui l'ai inventée. La French Connection, je savais pas ce que c'était. C'est eux qui l'ont inventée. La police. La French Connection, pour moi, qui est-ce? Les patrons. Les patrons de la French Connection, ce seront les vieux marins. 7 ou 8 personnes. Des personnes, bien. C'était des messieurs.
Parmi ces messieurs, Jacques est donc le spécialiste du transport maritime de la drogue. Il utilise plusieurs moyens. Tout d'abord, il peut compter sur certains douaniers.
Les douaniers, je dis, je portais 200-300 kilos.
Deux ?
D'héroïne. On parle que de l'héroïne. On ne parle pas des patates, là. Comment voulez-vous faire ? Envoyer une grosse quantité d'un port, un port que dans il y a les ports, il y a les côtes, il y a les douanes, il y a tout. Comment vous voulez embarquer ça ? Ou le débarquer ? Si vous n'avez pas un douanier qui vous le fait. Donc, sans la douane, on ne peut pas faire le travail. Maintenant, sans la douane, on peut travailler. Mais combien? 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, ça ne nous intéresse pas. Comment voulez-vous monter 3 kilos en Amérique? Et les frais? Il y a plus l'argent qui va aux frais. Donc, il faut monter en Amérique au moins, le minimum 50 kilos. Alors, quand il y avait de grosses affaires comme ça, on avait les douaniers qui étaient braves pour nous. Champion même. Et un jour même, il est venu un de douanier. Il m'a porté la valise à la maison.
Mais les douaniers de confiance ne sont pas toujours là. Jacques a donc une autre stratégie pour passer l'héroïne de port en port. La tactique de la caravane ou du camping-car. Il choisit un couple avec enfant qui va jouer les touristes. Il quitte Marseille en camping-car, destination la Turquie. Explication.
J'ai fait préparer une caravane, un camping, avec un ami et avec ses 2 enfants et sa femme, je les ai envoyés à Istanbul en été pour passer à faire camping.
Parce que vous, vous ne faisiez pas le transport?
Ah non, 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 jamais je fais le transport. Non, je ne peux pas. Tu fais l'organisation, tu ne peux pas faire le transport. Ce n'est pas possible. Mais ça se faisait comme ça. C'était facile pour nous. Dans la caravane, on faisait des planchers. La marchandise, il la mettait là. Parce que la caravane chargée, il en avait pour 2 jours, 48 heures. Mais il ne fallait pas partir. Tu vas en congé, tu ne vas pas rester 15 jours. Il est en vacances. Alors tu vas en congé, tu restes un mois. Vous vous rendez compte quand vous dites à la frontière, comment vous êtes rentré il y a 3 jours et vous partez déjà? C'est arrivé. Comment c'est arrivé aux autres? Il ne faut pas que ça nous arrive à nous. On le savait tout ça. Oh, quand vous êtes rentré, il y a le tampon. Et la caravane restait chargée, il arrangeait bien sa caravane. Et au bout d'un mois, il partait. Il partait avec le bateau. À Istanbul, il prenait le bateau. Que le bateau l'amenait en Grèce. Et dans la Grèce, il descendait, il venait à Marseille, jusque là, avec la caravane.
Une fois la drogue arrivée à Marseille, Jacques peut compter sur José Zary, chimiste vedette de la French Connection, surnommé également Monsieur 98% pour la pureté de sa drogue. José Zary est en charge de transformer la morphine en héroïne dans son laboratoire, la Villa Suzanne, située à quelques kilomètres de Marseille, en pleine campagne.
Le rôle de Césari, c'était que nous, on le ravitaille en morphine à base et que lui se débrouille pour faire l'héroïne. Il était bon comme un chimiste, lui. Alors, comme il n'est pas seul, parce qu'il faut être deux au moins, il a embauché deux bons amis à lui qu'on ne connaît pas, on n'a jamais connu qui c'était, qui lui donnait la main. Quand on a vu ce qu'il avait fait et qu'on l'a envoyé en Amérique, ça a été un bon. Tout le monde il voulait celle-là. Il ne voulait plus d'autres marchandises que ça. Lui, il fortifie nos marchandises à 230-232 de points de fusion. Il mérite la Légion d'honneur. Nous, on ne peut pas arriver à faire ce qu'il fait. Alors, je me suis engagé de moi de trouver la morphine pour lui donner. Voilà, c'est comme ça qu'on a travaillé.
Jacques, qui s'estime rigoureux dans son travail, contrôle systématiquement la qualité de l'héroïne avant son expédition vers les États-Unis. Il n'a pas perdu la main.
Dans un tube, vous mettez un demi-gramme d'héroïne. Après, vous mettez dans un bol l'huile de paraffine. Dans le bol, vous mettez le thermomètre et le tube couvert à la marchandise, l'héroïne. Vous remplissez la casserole d'eau et vous faites chauffer l'eau. Quand l'eau, le bout, c'est à 100 degrés. Arrivé à 227 ou 230, comme mieux, l'héroïne, qui est blanche, elle se fond. Elle devient comme le chocolat que vous le faites cuire, hein, voilà. Et quand, au moment, elle monte à 230 ou 227, à partir de 227, putain, 227, c'est très bon déjà. Bon, et puis, vous arrêtez. Elle devient liquide. À ce moment-là, c'est de l'héroïne comme il faut. C'est là, le point de fusion, il est là. On était tranquille. On a fait plusieurs voyages, on a fait comme ça. Et on a travaillé de 60 à 70. J'ai pris de l'argent. Écoutez, j'ai acheté l'appartement. C'est déjà bien. Et l'appartement au-dessus, c'est déjà bien. Et je construis la villa. C'est encore bien. Une villa coûte 2 millions, hein, avec le terrain et tout. Bon.
2 millions d'euros.
Rien que le terrain vaut 1 million d'euros. À la mer. Elle valait 2 millions maintenant. J'avais la sortie, la rentrée dans le garage pour aller dans l'appartement. Une petite coursive, un petit couloir. J'avais la porte, je montais. Quand il pleuvait, je rentrais ma voiture, mais je ne sortais plus dehors. Je travaillais, je mangeais bien, je tiens ma femme bien, on avait tout ce qu'on voulait. Et puis je prêter aussi, donner à l'autre, c'est la famille. La famille, c'est comme ça. En fait, ça range toujours.
Avec ça, Jacques engrange un petit pactole qui le met bien à l'abri du besoin, lui et sa famille. Au moins jusqu'à la fin des années 60. En 1969, la guerre est officiellement déclarée à la French Connection. Le président américain Richard Nixon envoie une lettre au président français, Georges Pompidou, le pressant de lutter activement contre ce trafic de stupéfiants. Des manifestations se multiplient aux États-Unis. On peut lire sur les pancartes « La France fabrique l'héroïne tue ». En 1970, la législation sur les stupéfiants se durcit en France. Jacques lève le pied. En 1972, les affaires reprennent brièvement. Jacques organise une dernière transaction qui sera fatale à la French Connection.
France Culture, les pieds sur terre.
Césari est venu me voir. Il m'a dit, Jacques, je vais te présenter quelqu'un. C'était un Américain. Parce qu'il a besoin de 50 kilos. C'est l'héroïne. Il faudrait y porter à San Remo. À San Remo, c'est l'Italie. C'était au mois de janvier ou février, voilà. En 72, il me présente l'Américain. Lui, il dit qu'il s'appelle Giovanni. J'y crois pas. Quand c'est comme ça, on n'en a pas les vrais noms. Hein. Alors, je ne pas y croire. Bon, on parle, je n'ai pas dit non. Je parlais avec lui, j'ai senti que ça n'allait pas. Mais il ne me faisait pas. Je le voyais, la figure, je voyais que ce n'était pas un bon type. Césari, il vient me voir. Il me dit, tu n'as rien porté? J'ai dit non. Parce que ton ami ne me plaît pas. Césari, il m'a dit, écoute-moi, tu peux y porter, j'en prends la responsabilité. Je suis allé pour porter la marchandise. Alors là, quelques jours avant, j'avais préparé l'organisation, comme on dit.
Jacques part avec deux personnes de confiance, Raymonde et Louis. La première est chargée d'amener une voiture jusqu'en Italie. Dans les portières, les 50 kilos d'héroïne ont été soigneusement cachés. La livraison de la drogue à l'acheteur Giovanni doit avoir lieu sur le terrain des courses hippiques à San Remo, à 8 h du soir. Raymonde et Louis arrivent avec la drogue. Jacques conduit son client à leur rencontre.
Je vais voir Giovanni. Il dit, ce soir à 8h, on va chercher la marchandise. Alors, j'arrive le soir à 8h, on va dans ma voiture, j'avais la Mercedes, je vais à la voiture. Comme je monte dans la voiture, il me dit, non, on prend la mienne. Elle était de couleur comme le mimosa, là. Alors, il y a deux messieurs dedans. Il me dit, présente, c'est deux amis qui viennent, ils me donnent la main pour porter la marchandise. On va au camp hippique. Alors, le petit Louis, il prend les deux valises, il me les porte sur le terrain, à la moitié du terrain. Ouais, là.
C'est-à-dire que chacun était aux deux extrémités de terrain, d'un côté les Américains voilà. Et de l'autre vous. Voilà. Et chacun allait jusqu'à la moitié.
Ça fait que lui, alors, je prends les valises sur le terrain, Louis, il est retourné en arrière avec Raymond, ils sont repartis. Moi, les deux types, ils descendent dans la voiture, ils prennent les deux valises, ils me les mettent dans le coffre, dans leur voiture. Ils le mettent dans le coffre et tout. Et ils me ramènent à l'hôtel. Et le vieux Giovanni, il me dit, demain matin à 7h, je te porte l'argent. J'ai fait coucher Raymond dans l'hôtel des Anglais. Et le matin, bonheur, on se lève, je dis, écoute, elle fumait comme toi. Elle faisait les gitanes. Il me dit, Jacques, j'ai plus de cigarettes, je suis emmerdé. J'ai mis envolé au bar tabac, j'ai acheté un paquet. J'ai ouvert la porte de la voiture. Et il m'est arrivé une trentaine de personnes, des carabiniers, des condés, des voitures. Tout autour, il y avait plein de condés. Ils nous ont sauté dessus, ils m'ont tiré de la voiture, il y a elle aussi. Ils m'ont emmené à l'évêché, en Italie. Je rentre au commissariat.
Lorsque Jacques arrive au poste de police et qu'il reconnaît parmi les policiers le fameux Giovanni, il comprend soudain ce qui lui est arrivé. Le piège lui a été tendu par des policiers américains, dépêchés en Europe pour soutenir les Italiens sur ce dossier.
J'ai attendu le procès et je fais dire, pour avertir Césari, que son ami, c'est un condé. Cette chose-là, je ne sais pas s'il a su ou s'il n'a pas su, parce qu'il est mort. Il n'a pas su. Enfin, moi, j'ai essayé de le faire avertir. Enfin, j'arrive au procès. Alors, le président me dit, Comment j'avais fait pour porter les 50 kilos? J'ai dit, j'ai rien porté, moi. Je suis innocent. J'ai rien fait. Il me présente les deux personnes qui étaient dans la voiture. Ces messieurs-là, le président, ce sont deux personnes du narcotique bureau de Rome. Je dis, mais ces messieurs-là, je ne les connais pas, moi. Quand il fait le procès, Raymond, qui était au procès, a dit à monsieur le président, non, mais ce monsieur n'en est pour rien, c'est pas lui, c'est moi qui ai porté. C'est à moi la marchandise. Raymond, elle sait bien. Elle a pris 4 ans quand même. J'ai fait 5 ans, au lieu de 6. Qui pouvait penser à Marseille, les voyous comme nous, qui pouvait penser à Marseille comme Césari, me mettre dans un piège que lui-même il ne savait pas? Comment je suis arrêté? D'ailleurs, je ne devrais pas être condamné pour ça. C'est un Condé qui m'achète la marchandise, c'est deux Condés qui la reçoivent, et moi, qu'est-ce que je fais au milieu? Et qui me paye?
Quelques semaines après l'arrestation de Jacques en Italie, Joe Césari, le chimiste, est également arrêté devant son laboratoire à Marseille. Il sera retrouvé pendu dans sa cellule. Un suicide ou un crime commandité par le milieu, les conditions de sa mort n'ont jamais été élucidées.
C'est moi qui ai préparé tout. Autrement, je le roulais, je mets le petit salé dedans, là, il persiste.
Entre-temps, Jacques est sorti de prison, a replongé et essaye vaguement de s'arrêter.
Je voulais m'arrêter tout le temps. Deux jours que je me suis marié, je vous jure que je dis, je m'arrête, je dis à ma femme, Juliette, c'est mon dernier voyage. Le dernier voyage, je n'ai jamais su lequel c'était. Parce qu'on est piqué, on aurait dit qu'on est drogué, je veux faire cette affaire, c'est la dernière. Et c'est toujours la dernière, mais c'est toujours la première qui revient. J'en ai pleuré même. C'est l'angoisse de soir, que je savais que je passais la nuit, comme j'allais faire le débarquement en mer en bateau tout seul. Je ne savais pas que je retournerais à la maison. J'aurais pu être tué avant, en mer. Alors là, on pense beaucoup. Pour dire, il faut que je m'arrête, j'ai 2 enfants, maintenant il faut que je m'arrête, je ne fais plus un peu. Pof. Et voilà. Et je repartais.
En 1979, Jacques revient au trafic de drogue, moins de 2 ans après sa sortie de prison. Cette fois, il entraîne son fils, Jean-Pierre, alors âgé de 22 ans. Jacques et son fils sont arrêtés en Italie. L'affaire fait la une des journaux. Ainsi, le 28 août 1979, on peut lire dans France Soir. La French Connection n'est pas morte. La semaine dernière, les policiers de la Riviera italienne ont interpellé 5 trafiquants de drogue qui avaient organisé une filière partant de Marseille. 4 kilos d'héroïne pure étaient récupérés sur les truands, tous très connus et fichés au trafic international de la drogue. Parmi eux, Jean-Pierre Massia, 22 ans, et son père, Jacques, 55 ans.
Mais oui, on sort du bar avec Jean-Pierre pour aller chez moi, on était à 50 mètres de la maison. Il y avait la police devant le bar, ils nous attendaient qu'on sorte, ils nous ont pris tous les deux. Je suis resté étonné. Ils ont fouillé la maison, ils n'ont rien trouvé. Et ils m'ont ramassé quand même, moi et mon fils. Et on ne savait pas ce qui est arrivé. Ni mon fils et moi. On était dans le bar, on était tranquilles.
Oh, vous ne saviez pas qu'il y avait de l'héroïne?
Mais non, non, mais c'est pas comme... Vous parlez comme les policiers, vous parlez comme les condés, là. Mais non, on n'était pas au courant. Comme la drogue, pour nous, il n'y était pas. Ils ont mis sur ce sort de malfaiteur. Mon fils, il avait pris 10 ans, et moi, 17 ans.
Jacques s'évade de prison en 1983. Il est à nouveau arrêté en 1984 et sortira de prison 10 ans plus tard. Derrière cette vie qui peut sembler romanesque, une question est restée pour moi sans réponse.
La morale. Hein. Moi, je ne connais pas la morale. Hein. Non. Quand on est engagé dans une affaire comme ça, on ne s'en défait plus. Ma femme, elle savait très bien que je m'étais débrouillé, elle savait très bien que l'argent ne vient pas du ciel, elle savait très bien tout ça. Elle m'a dit, Jacques, fais purée. J'ai dit, je ne peux pas. Ces gens-là que je travaille avec, ils comptent sur moi. J'ai promis que je vais faire ça, je suis obligé de le faire. À l'école, on ne m'apprenait pas la morale, je ne sais pas. La morale, avec qui la morale? Avec comment je peux sentir la morale? Je ne sais pas. Vous sentez quoi dans la morale?
C'est parfois la mauvaise conscience aussi.
Je ne sais pas. Je n'ai jamais eu ça, moi. Je ne sais pas, je n'ai jamais eu ça. On ne m'a jamais dit si j'avais la conscience ou pas la conscience. J'ai tué personne. J'oblige personne de se mêler de mes affaires. Les hommes qui achètent ça, c'est des hommes bien, de haute personnalité, qui ont besoin de ça. Ce n'est pas les petits, c'est les hautes sociétés, connues par la politique, tout ça, qui prennent de la drogue. Le trois quarts, c'est ça. Ils disaient, c'est normal.
C'est comme si c'était hier, comme si l'endroit faisait l'envers, comme si les images s'arrêtaient et que les belles heures défilaient. C'est comme si c'était demain, comme si le soir venait le matin, comme si la grande roue tournait et que l'horloge s'enrayait. C'est comme si c'était le moment, comme si l'après pointait l'avant, comme si qui sera été et que la mécanique s'essoufflait. Le temps passe, on est vite, ne passons pas trop vite. Le temps passe, on est vite, ne passons pas trop vite. C'est comme si c'était fini, comme si la mémoire servait l'oubli, comme si nos rêves souvenaient pas et que le réveil ne sonnait pas. C'est comme si c'était toujours, comme si nos nuits étaient nos jours, comme si le soleil vous des doigts.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec La French, un reportage de Pascal Pascariello réalisé par Alexandra Malka. Merci à Jacques et Jean-Pierre Massia ainsi qu'à Théo. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, des commentaires, des réactions, direction les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook et un compte Twitter qui vous attendent avec impatience.